Pour ce sujet EPRA, nous vous proposons de suivre un atelier débat organisé conjointement par l'Association des Tunisiens en France, la Fédération des associations laïques de Roubaix, l'Association Femmes Solidaires et l'Union des familles laïques de Lille sur le thème « Diversité et discrimination » en présence de M. Mohamed Smida, président de l'ATF Nord.
Je vais avoir la lourde tâche d'introduire ce débat. Et je vais essayer de parler de deux thématiques, de notions, diversité et discrimination. Pourquoi parler de la diversité et de discrimination ? Parce qu'il me semble que ce sont deux notions intimement liées et qui sont au cœur de nombreuses difficultés, de nombreux questionnements et qui... aussi sont au cœur de la problématique de la laïcité. Je dis problématique de la laïcité, mais ce n'est pas un problème, c'est une problématique. Et ce que disait Michel tout à l'heure est tout à fait exact. Il y a un problème de compréhension, il y a un problème de contenu, il y a des attaques. Oui, c'est vrai, le président de la République semble vouloir une laïcité positive ou ouverte, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, lui, visiblement, il le sait, et c'est normal que ça puisse interroger. Mais revenons à la diversité et aux discriminations. Initialement, le terme de diversité, ou le concept même, a émergé aux États-Unis dans les années 80. Et c'est Carter qui a fait adopter, Jimmy Carter dans les années 80, a fait adopter les premières lois sur la culture qui intègrent la diversité. Donc c'est la diversité culturelle, diversité linguistique, des formes d'expression. Et par la suite, ce concept a trouvé quand même également en Europe des traductions, y compris législatives, dans la plupart des pays européens, sauf en France. Et ce n'est qu'en 1997 que ce mot « diversité » a fait son apparition dans le discours politique en France. Ça, pour ce qui est de la diversité. Après, on verra ce que c'est, qu'est-ce que ça peut contenir, qu'est-ce que ça peut avoir comme signification. Les discriminations... Là aussi, on pourrait tenter une définition en disant que une discrimination, ce n'est pas la définition juridique qui est donnée du terme discrimination, il y en a une. Mais en fait, la discrimination est une différence de traitement fondée sur des motifs illégitimes et qui aboutit à une négation de l'égalité des droits. Ça, c'est ma définition à moi. Je vous la livre comme je la comprends. Le problème, à mon avis, c'est que la France a mis l'égalité des droits au cœur de ses principes fondamentaux. Et confrontée à la diversité, la France a souvent tourné le dos au principe de l'égalité. Je m'explique. La France a connu des vagues d'immigration depuis le 19e siècle, même avant. Et elle a une expérience unique en Europe, parce que c'est un pays qui a pu assimiler aux diverses vagues d'immigration. Quand elle a été confrontée à l'immigration venue d'Europe, d'Afrique ou d'Asie, se sont posées des difficultés. Et on trouve que, par exemple, le législateur français a mis dans sa poche le principe d'égalité et a essayé d'organiser. Par exemple, dans les années 80, il y a eu des tentatives de faire renvoyer des immigrés chez eux. Dans les années 74, 75, 60, début des années 80, il y a eu des tentatives, y compris de renvoi forcé d'immigrés. Dans les années 80, les étrangers venus de la zone non européenne, c'est-à-dire Asie, Afrique noire et Afrique maghreb, ont quand même obtenu le droit de s'installer d'une manière durable, notamment avec la carte de résident. Donc là, on a dit, on va organiser. On va organiser comment ? En mettant des conditions, en regroupant des familles. Ces conditions au regroupement des familles ont été parfois draconiennes et c'était dans une tentative de limiter. On a même aussi essayé de rendre beaucoup plus compliquée la question de la nationalité française pour les enfants des migrants nés sur le territoire français. Et après, on est revenu là-dessus. On est revenu par la suite là-dessus. Donc, ce sont des signaux qui traduisent quoi ? Qui traduisent que le fait ou non, et c'est logique, hein, ce sont des constats, mais c'est aussi logique. Parce qu'en France, on ne conçoit l'égalité. L'égalité, c'est un principe fondamental. Il y a des normes juridiques qui sont là pour faire appliquer le principe d'égalité. Et à cause de cette attitude, on n'a pas vu, des fois même, non seulement on n'a pas vu les discriminations de fait qui sont dans la société, et non seulement le législateur n'a pas voulu lutter contre les discriminations, mais des fois il fait même semblant que son attitude n'est pas discriminatoire. Et Dieu sait qu'il y a eu des lois discriminatoires. Et donc, si la loi de 72 contre les discriminations raciales est ancienne, il faut savoir que pour que le législateur français en arrive à mettre en place une législation qui permette, un tant soit peu, de lutter contre les discriminations directes ou indirectes, et donc prendre en considération la diversité dans la société, il a fallu attendre que ce soit les directives européennes et essentiellement les décisions de la Cour de justice de la Communauté européenne. Et c'est comme ça que les premières lois, c'est 2001, vous vous rendez compte ? 2001, pour qu'il y ait la première loi qui consacre la possibilité de contester, de faire aboutir de sanctionner une discrimination. Donc après, de 2001 à aujourd'hui, hein, c'est pas longtemps, c'est 7 ans. Mais en 7 ans, on a eu la loi de 2001, une autre de 2002. On a eu introduction dans le code pénal, dans le code du travail, des mécanismes qui permettent de sanctionner les discriminations dans le sens où c'est une inégalité de traitement fondée sur des motifs déclarés illégitimes ou illégaux par le législateur. Le législateur, on fixe 18 critères différents qu'on pourra citer si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce qui était intéressant pour moi, pour introduire à ce débat, c'est de faire le constat qu'il y a, d'une part, cette attitude de législateur, de l'autre côté, les populations immigrées et leurs enfants ont eu effectivement, comme les vagues précédentes d'immigration, à s'insérer, apprendre à vivre dans la société française, comme celle d'avant, mais en plus, elles ont eu à confronter un chômage structurel depuis les années 70, qui les touche en premier. Elles ont eu à confronter un logement où ils ont été, ça a même parfois été organisé par les collectivités, par l'État, où ça aboutit à des zones de ségrégation. Et ils ont eu à être confrontés aux discriminations telles que c'est défini d'une manière quotidienne, à l'emploi, au logement, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça a cristallisé, en fait, hein, ça a cristallisé de la déception, ça a cristallisé l'incompréhension, ça a cristallisé le fait que beaucoup de gens disent, oui, mais l'égalité de droit, c'est quoi cette égalité de droit ? Alors que c'est bien beau de dire qu'on est égaux en droit, mais c'est théorique. Ça ne suffit pas. Il y a quand même eu, dans la période récente, d'après les lois, mais il y a eu aussi la création de la haute autorité de lutte contre les discriminations. Alors, c'est quoi? C'est un organisme administratif indépendant. Puis, il y a des mécanismes de saisine de la HALT. La HALT a quelques... Oui, elle a des pouvoirs, y compris pour aider à faire sanctionner des discriminations. La HALT émet des avis. La HALT est en train d'acquérir progressivement une autonomie. La HALT, par exemple, a déclaré discriminatoire à certaines dispositions sur les quotas dont l'accueil des étrangers, l'histoire de l'immigration choisie. La HALT a dit que c'était discriminatoire. Aussi pour l'accès à l'URSA, là, il y avait un projet de loi qui effectivement considérait que les étrangers non communautaires ne pouvaient pas bénéficier de l'URSA dans les mêmes conditions. La HALT a dit que c'était discriminatoire. Donc, alors, la cristallisation chez les victimes des discriminations, la cristallisation du sentiment de victime, a effectivement abouti, dans beaucoup de cas, à ce que j'appellerais des crispations communautaires. D'autant plus que la laïcité, on y revient, la laïcité est, comment dire, beaucoup de gens disent que c'est un combat, parce que effectivement, la laïcité telle qu'elle a été formulée dans la loi de 1905 est toujours un objectif à atteindre. C'est jamais réellement ça dans la société. Et puis, il y a aussi le fait que, par exemple, chez la communauté, enfin, j'aime pas trop la communauté, mais disons que chez les musulmans, par exemple, hein, le concept laïcité ne peut pas être compris parce que la religion chez les musulmans, c'est quelque chose de structurant et ce n'est pas simplement personnel. C'est pas simplement personnel, et pour que les musulmans de France arrivent à mettre la religion dans le domaine de la sphère privée, au sens où on l'entend, l'entend la loi de 1905, il faudra du chemin, parce que je ne vous cache pas qu'il y a des musulmans pratiquants qui ont une approche laïque, mais il y en a d'autres qui ont le sentiment que la laïcité, ça fait partie de la modernité, que la modernité, ma foi, ça ne leur a apporté que des misères, parce que, fatalement, c'est l'histoire qui a fait ça. Hein. Ni vous, ni moi, nous sommes pour quelque chose, mais les musulmans de l'autre côté de la Méditerranée, qu'elles soient de l'Est ou qu'elles soient du Sud, ben, ils ont l'impression que laïcité, ça va avec modernité. Et que modernité, pour eux, c'est la colonisation. C'est des rapports inégaux. C'est la néocolonisation. Et à tort ou à raison, ils sont beaucoup plus sensibles. Ils ont l'oreille plus... En plus de ça, ils ont des régimes politiques qui ne sont pas légitimes. Ils ont des dictatures dans la quasi-totalité des cas. Et donc, ils ont plus facilement à l'écoute de gens qui leur disent « Mais ma foi, mais vous êtes fous, vous ben, !» Il suffit de revenir aux fondamentaux de l'islam. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Pendant 7 siècles, on a été au sommet de la civilisation pendant que l'Occident, il était encore, j'allais dire, à l'âge des pierres, entre guillemets. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est qu'il faut beaucoup de... Il faut aider les croyants musulmans, moi je pense fondamentalement, les gens qui sont pratiquants, il faut les aider à arriver à concevoir que être laïque, c'est ne pas simplement tolérer l'autre, mais c'est de se dire que l'autre est mon égal et que je suis son égal. Et pour que la plupart des musulmans de France se sentent les égaux, il faut qu'on arrive à une égalité réelle des droits. Et je pense qu'on n'y arrivera pas simplement par la diversité comme elle est pratiquée, hein, parce que là, je reviens sur la diversité. C'est vrai qu'il y a des tentatives, il y a même un label diversité. Il y a des entreprises qui disent ouais, il faut un programme de diversité, il faut mettre des têtes, je veux dire, des maghrébins, des noirs, en gros, dans les postes à responsabilité, si. Mais c'est toujours sur la base d'une approche qui risque d'aboutir à une sorte de barrière. Ça part de bons sentiments, mais à terme, ça pourrait aboutir au contraire, parce qu'au moment de la discrimination positive, c'est un peu ça, c'est la discrimination positive, c'est-à-dire donner un coup de pouce à ceux qui sont les moins favorisés, mais si on fait ça sur la base de la race, de l'ethnie, des origines, on aboutit à ne pas, par exemple, lutter contre les discriminations qui sont faites aux femmes, ou qui sont faites aux handicapés, ou qui sont faites pour des régions... Donc c'est difficile de se satisfaire de la diversité comme label pour dire qu'on lutte réellement contre les discriminations. La lutte contre les discriminations est un comportement et quotidien, et il faut qu'on arrive dans ce pays à ce que la discrimination soit illégitime. Pas seulement illégale, mais qu'elle soit illégitime. Et ça, c'est une affaire d'éducation. C'est une affaire... Quand on voit que dans les manuels scolaires, par exemple, c'est très curieux, Alda a fait des études, une enquête, il n'y a pas très longtemps, et elle a trouvé que dans les manuels scolaires, il y a un problème, par exemple, que les femmes sont souvent représentées dans des situations qui ne sont pas très avantageuses. C'est toujours dans le domaine domestique. Les handicapés, par exemple, quand on en parle, c'est plutôt dans des situations où ils sont amoindris physiquement. C'est pour illustrer. Et les étrangers sont toujours, dans les bouquins d'histoire géographie, par exemple, apparemment, l'Alde a découvert que les Africains, par exemple, c'est souvent synonyme d'enfants mal nourris, sales, patati patata. Donc, c'est sur des ressorts comme ça qu'il faut effectivement agir et agir, je dirais, d'une manière équilibrée. Là aussi, ça peut paraître peut-être, à certains, pas très clair, mais d'une manière équilibrée, c'est-à-dire que c'est une construction collective. C'est une construction collective. Et parvenir à la laïcité telle que, en ce sens que la religion est du domaine privé, même si au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont de la remise en cause, de cette y compris la tentation qu'a la droite actuellement, je dis la droite à dessein, de faire de la discrimination positive, de faire d'un traitement différencié, de s'accommoder de représentants de communautés, comme ils sont accommodés des représentants de communautés juives, orthodoxes, ou protestantes, ils veulent créer une représentation de la communauté musulmane, quitte à ce que, ma foi, la laïcité, pas de, là, là-dedans, soit un petit peu égratignée.
Cet atelier était suivi par un débat avec le public présent.
Tout d'abord, merci pour ces trois interventions. Je ne suis pas d'accord sur tout, c'est normal, je suis citoyen, donc vive la démocratie, vive le vivier démocratique, mais j'apprécie quand même. Dans le sens où, par exemple, sur l'intervention de monsieur prénom ?
Mohamed.
Oui, excusez-moi. Je tiens à dire qu'il faut rester optimiste dans le sens où j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur le monde musulman où il en est actuellement, quoi. J'approuve totalement. Mais il y a un espoir dans le sens où, par exemple, on ne peut pas refuser le progrès économique et social. Et à la limite, la bourgeoisie de ces pays pour des raisons financières. Donc des usines s'ouvrent. Et on a besoin de femmes pour travailler. Donc la femme sort du foyer pour... Et déjà, à la limite, c'est déjà un petit progrès. Elle ne reste pas au foyer à s'occuper de ses enfants, elle travaille. Même si elle est exploitée par rapport à l'homme. Donc c'est un premier pas. Il y en a d'autres, parce que je ne connais mal le monde arabe, mais il ne faut pas être non plus, comment dire, anti-musulman primaire, et ça bouge, quoi. Parce que je n'écoute pas que les médias, quoi. Et je dis non à l'islamophobie. Oui, ça bouge, et je suis optimiste. Même s'il y a des problèmes. Et nous, en Occident, et je refuse aussi par ce biais-là, ce que j'appellerais l'européocentrisme, donneur de leçons, moi je suis civilisé et toi t'es sauvage. Je refuse ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a apporté un certain nombre de choses, mais eux aussi nous apportent un certain nombre de choses. C'est un échange, la vie, premièrement, et le respect mutuel. Et troisièmement, par rapport à la laïcité, il y a des laïcs que j'apprécie beaucoup en France, pays de la laïcité, mais il y a des laïcs que j'apprécie beaucoup moins. Je vais prendre un exemple historique. J'apprécie beaucoup Jean Jaurès, qui fait un grand laïc, qui est mort, même si je n'étais pas d'accord surtout sur lui, mais c'est un grand laïc, qui est mort contre la guerre. Il a été assassiné pour ses idées pacifistes, contre cette boucherie. Mais par contre, je pense à un autre laïc, Clémenceau, qui fait un grand boucher. Enfin, excusez-moi, je donne mon avis, quoi. Donc, laïc, d'accord, mais quelle laïcité ?
Moi, je suis venu ici ce soir parce que la laïcité, c'est une question qui m'intéresse. Et j'étais choqué d'entendre opposer laïcité et tolérance. Pour moi, ça me heurte qu'on oppose ces deux notions. Alors, je suis venu ici ce soir parce que je pense que la laïcité, elle est également menacée en ce moment, très sérieusement. Je pense au président de la République qui est dans ses propos autour de sa visite au Vatican, hein, où il a dit qu'on ne remplacera pas le curé pour l'apprentissage du bien, du bien et du mal chez les enfants. Ça, pour moi, c'est vraiment une agression contre la laïcité, puisque c'est affirmer un rôle irremplaçable de la religion. Donc il y a actuellement de réels risques contre la laïcité. Alors c'est extrêmement intéressant de faire de l'histoire, hein, et de montrer effectivement que la laïcité, elle a mis des siècles à se mettre en place, et ça remonte effectivement à l'Ancien Régime, à cette volonté du pouvoir politique petit à petit de s'affranchir de la religion, et puis de montrer aussi les drames qu'il y a eu contre cette tendance émancipatrice, notamment la révocation de l'édit de Nantes. C'est une catastrophe pour la France, avec des milliers de Français, des élites qui ont quitté définitivement le pays et qui sont allés à l'étranger. Alors, je dis la laïcité est menacée. Alors, moi, je pense que la laïcité, c'est un idéal et un combat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est jamais fini et c'est quelque chose qui est en permanence menacé, comme toutes les conquêtes sociales de la République, comme le droit du travail, comme tout le progrès social. Et actuellement, on est dans une phase très défavorable pour la laïcité, pour le progrès social. Enfin, je ne pense pas que... Je crois qu'on sera ici, sans faire de politique, on peut convenir autour de la table qu'on n'est pas dans une période de progrès social. Quand on voit l'état du système éducatif, je ne vais pas faire le catalogue, hein, de la situation actuelle. Cela étant, effectivement, on est confronté à la réalité particulière française avec cet ordre public, cet ordre républicain, cette laïcité à laquelle on est tous, par la réalité sociale de l'immigration et des discriminations, comme monsieur nous en a parlé tout à l'heure. Et ça, il faut qu'on l'affronte. Et moi, en tant que communiste Et en tant qu'élu roubaisien, j'assume d'avoir contribué à lutter contre les discriminations en permettant à des roubaisiens de confession musulmane d'avoir des lieux de culte dignes et en leur donnant quelques facilités pour se construire effectivement des mosquées, des lieux de culte. Et puis, entre nous, il faut se le dire, la loi de 1901, elle a été contournée au niveau des lieux de culte très, très rapidement, avec l'entretien des édifices publics, avec, tout au long du XXe siècle. Je veux dire, c'est une loi historiquement datée. Vous savez que, par exemple, l'Église catholique n'a jamais accepté la loi de 1901. On a passé un compromis... 1905, pardon. Oui, je me trompe.
La loi de 1901 est un bon prix pour préparer cette loi.
Oui, bien entendu. Et puis, c'est une loi de compromis. Mais cela dit, il faut savoir... Enfin bon, je ne vais pas faire un exposé sur la loi de 1905. J'en suis incapable, mais on pourrait passer toute une soirée là-dessus pour montrer que l'Église catholique, par exemple, ne l'a jamais respecté, la loi de 1905. Et la situation en France, c'est un compromis après la guerre 14, avec la canonisation de Jeanne d'Arc, notamment, qui n'a jamais existé, d'ailleurs. Enfin, bref. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Donc, on est confronté à ça. Bon, on croit à la laïcité, on croit au progrès, on croit à la connaissance, on croit à l'émancipation humaine, je pense, tout autour de cette table. Hein, et actuellement, politiquement, on est très, très en difficulté. Bon, comment on va avancer tout ensemble? Moi, la représentation que j'ai de la laïcité, c'est le peuple qui se rassemble. Comme il s'est rassemblé à Valmy pour bouter hors de France la réaction. Pour moi, c'est ça ma représentation de la laïcité. Bon, actuellement, on est en difficulté parce qu'on a nos frères de confession musulmane qui, effectivement, sont tentés par le repli communautariste dans la mesure où la République leur a menti. Avec ses idéaux d'égalité, etc. Ils ont été... Et donc, là, il y a un défi qui nous est posé. Bon, et comment on va relever ce défi tous ensemble? Comment on va permettre à nos concitoyens de musulmans de s'intégrer à la République française? Il faudra que l'islam se francise. Là, il y a un défi. Enfin, s'adapte à la France. Alors, je sais qu'il y a quelques... musulmans, des imams qui sont extrêmement progressistes. Je pense à Souheb Memcher de Marseille. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup que la FAL organise une réunion, par exemple, avec un type comme ça, pour parler des questions de l'islam en France et comment on peut concilier islam et laïcité. Et ce que je voulais dire également ce soir, c'est que extrêmement attaché à la laïcité, je pense que c'est, pas judicieux, même si effectivement, juridiquement, la FAL peut, avec un règlement intérieur, interdire l'accès de ses locaux à des gens ayant des signes religieux. Je pense que ça n'est pas judicieux et ça n'est pas rendre service à la laïcité que d'appliquer un règlement comme ça. Actuellement, il faut qu'on se parle dans ce pays. Il faut qu'on échange sur le progrès, sur la justice, etc. Et de mon point de vue, ça n'est pas judicieux. Je tenais à vous le dire dans mon attachement à la laïcité. Voilà, j'ai terminé. J'ai peut-être été un peu long. Excusez-moi.
Avant de dire ce que je souhaitais dire quand j'ai demandé la parole, je pense que le problème actuel de la FAL est trop complexe pour qu'on on l'ouvre ce soir. Ce n'était pas l'ordre du jour, donc on n'en parlera pas. Il y a suffisamment eu de choses qui ont été dites, donc je pense que il vaut mieux pour l'instant qu'effectivement on calme le jeu et donc on n'entre pas dans ce débat-là, on n'y arrivera pas. Je voulais revenir quand même sur des points très concrets par rapport à justement cette notion de tolérance au travers d'actions qu'on peut avoir. Et justement, j'ai envie de le soumettre un petit peu là à l'ensemble des personnes qui sont là pour savoir un petit peu comment vous réagissez par rapport à ça. La tolérance, bon, par exemple, nous travaillons dans des écoles. On a fait une enquête l'année dernière sur la laïcité. Je cite un exemple qui s'est passé il y a 3 semaines, 1 mois. Une classe d'école primaire va travailler dans un lycée professionnel et est accueillie toute la journée dans le lycée professionnel pour des activités diverses et entre autres aussi à la restauration scolaire. Donc, ils étaient invités à manger là. Parmi les enfants de l'école primaire, une petite fille, sous pression des convictions de sa famille, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, a refusé toute la journée de manger, même un bonbon, pas question de manger un bonbon, et refusé toute la journée d'aller aux toilettes. Parce que, bon, on ne peut pas avoir, en fonction de ses convictions, aller se mélanger. Est-ce qu'on tolère ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une simple question par rapport à ça. Des jeunes, à l'école, refusent catégoriquement certains cours. Parce que c'est aussi ça, la laïcité. Alors, certains cours, sur des options philosophiques ou religieuses diverses. Alors bon, le plus connu, c'est le refus de cours de biologie sur la théorie de l'évolution. Ça peut être des auteurs qui sont refusés. Alors bon, on sait que c'est assez courant pour Voltaire, mais là, apparemment, quel est l'auteur qui est refusé maintenant, qui est retiré ? Ronsard, bon. Qu'on retire aussi des programmes. Enfin bon. Bon. C'est ça. Bon, voilà parmi un certain nombre d'exemples. Ça, c'est pas en France, mais autre aspect, un sikh, un jeune sikh, ne peut pas sortir sans son poignard. Bon, qu'est-ce qu'on fait à l'école ? Son poignard traditionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, moi, tous ces aspects-là, c'était un petit peu aussi ces aspects-là sur lesquels on a des questions à se poser quand on est face à des jeunes. Et maintenant, sur un autre terrain, je travaille aussi cette année avec des jeunes lycées professionnels, donc 18 ans à peu près, qui défendent haut et fort la domination de l'homme par rapport à la femme. Donc là, c'est clair. Alors, ils entrent quand même dans la discussion. Mais ces arguments-là sont très nettement affichés. Alors après, il y a tout ce qui en découle derrière. Parce que, bon, une société machiste affichée comme ça et fièrement affichée, enfin je veux dire fièrement affichée, je ne sais pas si je peux dire fièrement, mais ostensiblement affichée, annonce inévitablement derrière une société où l'homophobie devient fait des ravages. Parce que c'est la même logique. Et une petite chose que j'ai perçue, qui m'a montré ce lien qu'il y avait entre les deux, que je n'avais jamais repéré, c'est que des jeunes me disent sans détour, pour les filles, ce n'est pas grave. Le défi homosexuel, ce n'est pas grave. Par contre, pour des garçons, c'est un vrai scandale. Bon, donc, ça montre un petit peu toute cette logique-là. Et bon, moi, là, c'est pareil. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on tolère ? Pourquoi ? Est-ce qu'on tolère ? Est-ce qu'il est normal de tolérer que des parents imposent à leur petite fille de ne rien manger de la journée parce que la nourriture ne lui conviendra pas ? Et encore, ils l'ont laissé aller avec l'école. Je fais l'hypothèse que l'école étant obligatoire, ils sont peut-être été plus ou moins obligés.
Donc Jean-Pierre Delcambre, vice-président de la FLACEN. Donc, je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure à propos des femmes, enfin à propos de l'IVG, de tout ça. L'autre jour, j'étais à une conférence donnée par le docteur Jeannot, qui est l'initiateur du planning familial et qui parlait du droit de mourir dans la dignité. Et en fait, il disait que il y a un manque de laïcité qui influe au niveau de la prise en charge des malades, puisque finalement, pourquoi certains ne peuvent pas mourir dans la dignité, c'est parce qu'il y a le poids de l'Église qui empêche, dans un certain nombre de domaines, d'évoluer. Hein, voilà, bon, ça avait été un petit peu dit. Et j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur l'éducation non sexiste, parce que finalement, je me suis rendu compte que moi, quand j'étais jeune, mes parents étaient enseignants tous les deux, donc ça me semblait tout à fait normal que les femmes travaillent, puisque bah, je les voyais tous les deux dans des rôles tout à fait identiques. Par contre, ça me semblait tout à fait étonnant qu'une femme puisse conduire, parce que dans la famille, c'est mon père qui conduisait, donc quand je voyais conduire une femme ou fumer une femme, je trouvais ça tout à fait étrange. Donc effectivement, l'éducation peut être extrêmement importante pour faire passer un certain nombre de ces idées préconçues.
Jacqueline Duhem, donc je suis membre de l'UFAL de Lille. Vous disiez tout à fait, là j'approuvais tout à fait hein, ce que vous aviez dit, concernant les catholiques, qu'il y a eu remise en cause par les catholiques pendant des décennies, de la loi de 1905. Ça, c'est évident, elle a été bafouée. On a une série de gouvernements, il y a une série de lois, hein, qui ont été donc votées pour favoriser donc en particulier l'école privée, l'école catholique. Mais bon, vous prenez cet argument pour dire, eh bien, dans ces conditions, il faut maintenant donc faire la même chose avec les musulmans. C'est un petit peu ce que vous avez dit, hein, de permettre, par exemple, de financer peut-être des mosquées, parce que, bon, moi, je considère que, au contraire, il faut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'il faut remettre en cause, hein, tout ce qui a été fait, justement, pour remettre en cause en France la laïcité. Et surtout pas favoriser telle religion qui n'a pas été jusqu'à présent favorisée parce qu'elle est minoritaire. On en revient au thème de la tolérance. Et la tolérance n'est pas la laïcité. Donc, il ne faut pas tolérer qu'une religion, quelle qu'elle soit, ait des avantages. Hein. Et ce n'est pas en rajoutant à certaines religions qui sont considérées comme défavorisées des avantages qu'ont les autres, qu'on va vers la laïcité. Au contraire, on recule, on la remet en cause. Voilà ce que je voulais donc préciser là-dessus.
Je voulais revenir sur deux petits points. Le premier, c'est vrai que les droits des femmes, on remarque que là où il y a la laïcité, mais pas forcément la laïcité, il peut y avoir la sécularisation de normes, j'allais dire, qui ne sont pas des normes religieuse dans une société, effectivement, les femmes arrivent à acquérir des droits. Et c'est vrai que fondamentalement, on remarque que c'est pas forcément toujours lié, mais je prends par exemple le cas de la Tunisie. En Tunisie, il n'y a pas la laïcité. C'est un régime, je veux dire, il y a une religion d'État. Mais il y a une sorte de déconnexion qui a été faite par Bourguiba dans les années 56-57, où on a, par exemple, le code de statut personnel tunisien, c'est un code inspiré des législations laïques. Et donc, il y a le droit, je veux dire, le divorce, il n'y a pas de polygamie. Donc, il a été complètement déconnecté de la loi de la religion musulmane. Et là, effectivement, ça a permis que les femmes, que dans la société, les femmes aient une égalité de droit à 90%. Il y a un point sur lequel il n'y a pas d'égalité de droit, c'est en matière successorale. C'est la seule chose qui a été, consenti. Là aussi, c'est un peu comme l'histoire de la laïcité. C'était le rapport de force de l'époque qui n'a pas permis à Bourguiba d'aller un peu plus en avant. Mais c'est effectivement les droits des femmes, c'est l'élément révélateur, à mon avis, c'est comme ça, c'est l'élément révélateur de la capacité de la société à faire du vivre ensemble avec des normes qui sont édictées par les citoyens et non pas par telle ou telle communauté religieuse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement, la laïcité, ce n'est pas une guerre contre les religions. Il ne faut pas que ce soit ça, parce que la pratique religieuse est aussi un droit fondamental. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas construire un vivre ensemble sur la négation du droit. Alors des fois, effectivement, il y a des choses qui me sont ahurissantes. Par exemple, l'histoire de porter un voile. Moi, j'arrive pas à comprendre, par exemple, comment est-ce qu'une femme puisse dire, voilà, je revendique, c'est ma liberté, c'est mon droit de porter le voile. J'arrive pas à le comprendre. Parce que pour moi, le voile, c'est une négation de l'être humain qui est femme. Mais si elle est adulte, c'est sa liberté, c'est son droit. Et moi, je suis confronté à ça, parce que moi, je me bats contre le voile, parce que, dans une manif, il n'y a pas très longtemps, on a dit, avec ou sans loi, le voile, on n'en veut pas. Moi, je considère que c'est une négation d'un être humain qui s'appelle femme, parce qu'on cache, la femme n'a pas de place dans l'espace public. Mais si, cela étant dit, si une femme choisit, c'est son droit. Si, par contre, un enfant... L'enfant, c'est ça, la bataille, c'est là. Bataille, c'est un enfant. Moi, j'estime que les parents n'ont pas le droit d'imposer à leur enfant de porter un voile, d'autant que, même dans la religion musulmane, le voile n'est pas une obligation. Mais ça, c'est un autre débat. C'est comme l'histoire du sikh, du turban du sikh. Bon, ça. Donc, alors, construire des mosquées, pourquoi pas? Si ça peut aider à faire du vivre ensemble. Mais construire des mosquées, c'est pas non plus, il ne faut pas non plus que ce soit cédé aux pressions des groupes qui, eux, ne veulent pas seulement que les musulmans pratiquent leur religion, mais ils veulent contrôler la communauté musulmane. Et là, il y a un vrai problème. C'est vrai que tous les musulmans ne sont pas extrémistes. Hein. Monsieur, l'histoire de l'islamophobie, il y a des gens qui alimentent l'islamophobie. Voilà, il y a des gens qui alimentent l'islamophobie, et c'est de la même nature que les islamistes militants radicaux extrémistes qui veulent empêcher que les musulmans avancent dans le chemin d'appropriation. J'aime pas trop tellement l'intégration, c'est pas ça. L'intégration, c'est pas l'intégration, c'est l'appropriation de la laïcité comme un élément, comme un fondement, comme quelque chose de structurant du vivre ensemble, dans le sens où la laïcité est un régime politique. Là, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, c'est fondamentalement ça. C'est faire en sorte que les règles qui gouvernent la société ne soient pas édictées par telle ou telle religion.
Ce débat se poursuivra dès 17h sur Boomerang, sur le 89.7, avec Madame Natacha Loa, membre de Femmes Solidaires.